Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Oh, ma petite Sophie adorée!
Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale, classique, dans laquelle on parlera de La règle du jeu de Jean Renoir, un film de 1939, et de L'aigle à deux têtes de 1948 et Les parents terribles, là aussi de 1948, de Jean Cocteau. Et ces trois films-là sont disponibles chez Rimini Éditions. On abordera aussi Moby Dick de John Huston, un film de 1956 là, qui est sorti chez BQHL. On fera un petit tour du côté de l'Italie avec Il Ferroviere de Pietro Germi, qui est sorti chez Carlotta Film, mais aussi Le Terroriste de Gianfranco De Bosio, qui est sorti chez Rimini Éditions. On parlera des Fuyards du Zarein, un film de 61 de Ronald Nim, qui est sorti chez Rimini Éditions également. On ira faire un tour chez BQHL pour causer de The Music Lovers de Ken Russell, un film de 71. Et puis nous aborderons Les Derniers Jours de Mussolini, un film de 74 de Carlo Lizzani, disponible chez Carlotta Film. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Lucie Mautier, Jean-Pierre Vasseur et François Villa pour leur aide sur cette émission. Pour causer classique du cinéma, je suis aujourd'hui entouré de Johan Chanoir, dit le chat errant, historien, critique de cinéma, enseignant à Sciences Po. Miaou à toi, Johan.
Miaou à toute l'équipe.
Également présent, Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimera Tech, disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Et enfin, après le chat errant, la bête noire, on va compléter notre, comment dire, notre cabinet de curiosité, parce que ce n'est pas une ménagerie classique quand même, hein, avec un loup-garou picard de son vrai nom Thomas Roland. Oui, j'ai révélé l'identité de celui qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglantes chroniques pour divers médias. Bonjour Thomas.
Bonjour Jérôme, bonjour Damien, bonjour Johan et bonjour à toutes les auditrices cryptozoologues.
Mon cher Thomas, je sais que tu aimes la chasse, hein, voilà, toi qui es, comment dire, natif de la Somme, donc forcément tous les week-ends tu prends ton fusil et tu vas participer à des parties de campagne en Sologne, voilà, et en particulier quand elles sont mises en scène par Jean Renoir et qu'elles s'appellent La règle du jeu, grand classique du cinéma français qui vient de sortir, film de 39, hein, qui vient de sortir chez Rimini Éditions.
La règle du jeu raconte l'histoire de l'aviateur André Jurieux qui vient de traverser l'océan en avion, donc pour les beaux yeux d'une femme. Mais seulement cette femme, dont il est fou et follement épris, n'est pas là pour l'accueillir à son atterrissage. Et pour lui remonter le moral, son ami Octave l'invite au château d'un riche bourgeois où il pourra, entre autres, revoir cette femme. À partir de là, Jean Renoir va faire un film, on va dire, qui parle de rapport de classe, une sorte de vaudeville, de comédie, de drame. qui se passe dans ce château. C'est un film qui a été assez mal reçu à son époque, parce que c'était soi-disant plus en avance sur son temps. C'est un film qui a été fait juste avant la guerre 39-45. Il est sorti en salle 2 mois avant que la guerre 39-45 se déclare. Donc c'est un film qui n'est pas sorti au bon moment. Lui, il considère que c'est un film de guerre. Il considère que c'est un film de guerre, un film de guerre de classe sociale, où il se moque un peu des gens, pas forcément avec mépris, mais il y a toujours un peu d'humanité dans son film. Donc il y a des chassés croisés comme ça, entre les différents personnages, qui se trompent, qui s'aiment, qui se détestent. Et il a bâti son film d'après une pièce d'Alfred de Musset, où dans cette pièce, il y a un personnage qui est pris pour quelqu'un d'autre et qui est tué dans un piège. Et donc, il bâtit son film autour de cette petite trame pour faire la règle du jeu, cette espèce de farce. Au départ, il voulait faire un film plutôt léger, plutôt comique, mais il se rend compte au montage et puis lors des projections publiques que le film est beaucoup plus grave que ça. Alors, le film se distingue aussi par une mise en scène qui est quand même assez maîtrisée. Ce qu'aimait bien faire Jean Renoir, c'était faire des longs plans séquences. Des longs plans séquences où il variait les valeurs de plan dans le même plan, là. Et ce qu'on peut voir dans la règle du jeu, c'est assez extraordinaire. Des personnages qui sortent d'une pièce et qu'on retrouve rattrapés par la caméra qui fait un panneau dans une autre pièce. Et ça, c'est une grosse constante de Jean Renoir dans sa maîtrise de la mise en scène. C'est quelque chose qu'il aimait. Et surtout, il était très attaché au réalisme, notamment au réalisme sonore. Lui, il ne voulait pas doubler ses films. Il voulait faire tout en direct. C'est aussi un film... Alors, tu parles de la chasse, comme quoi j'aime la chasse. Alors, première nouvelle. Mais justement, il y a une longue séquence de chasse. Oui, mais il se moque un peu des chasseurs parce que Jean Renoir détestait les chasseurs, en fait. Il détestait la chasse. Et il y a cette longue séquence où il se moque un peu des chasseurs, notamment d'une certaine bourgeoisie, notamment d'anciens militaires, etc., où il se moque ouvertement d'eux. C'est une longue séquence où il montre un peu, selon lui, la cruauté de la chasse.
On va rester chez Rimini, hein, mais on va quitter la règle du jeu de Jean Renoir. On va parler d'un autre cinéaste français, alors un artiste un peu protéiforme là, qui voit ses films restaurés en 4K sortir chez Rimini. C'est Jean Cocteau, alors qui voit une sorte de double programme édité par Rimini, qui est logique, hein, en fait, hein, L'Aigle à deux têtes et Les Parents terribles, qui sont sortis 47, 48, enfin, qui se sont succédés, qui sont tous les deux des adaptations de pièces de théâtre. Donc, évidemment, il y a une cohérence, hein, dans cette sortie des deux films.
La dame blanche et le corbeau ont leur foyer dans un château. Des plus belles cartes du tarot, leur amour est le fruit du hasard, dont ils savourent le nectar. Tel un grand vin qu'on ouvre tard, enivrant du orage rare. Il recoule alors que l'arbre tourne dans le vide de la ville, vide d'un vide. Leur bon présage est bien lisible, plus de veuves et plus d'orphelins. À cœur vaillant, rien d'impossible, même à l'ombre du lendemain. Il recoule alors que la roue tourne dans le vide de la vie. Tu peux deviner de nos valeurs.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Une porte qui claque, c'est Michel.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Cocteau, lui, il va juste vouloir continuer à travailler, sans se mouiller. Et bon, il aurait dû savoir qu'un opiumane homosexuel, ça n'allait pas trop plaire aux nazis, mais bon, il a voulu quand même continuer à travailler, continuer à faire comme si de rien n'était, quelque part, en quelque sorte. C'est quelque chose qui va lui être beaucoup, beaucoup reproché. Et puis, quand il va revenir, après la Seconde Guerre mondiale, au théâtre, il va faire L'Aigle à deux têtes, qui va créer en 1946, la même année que celle où il met en scène pour le cinéma La Belle et la Bête. Et le problème de Cocteau, c'est qu'il n'a été ni Desnos, ni Vercors. Voilà. Bon, il n'a pas non plus été Brasillac ou Céline, tant mieux pour lui, hein, j'ai envie de dire. Mais il a été à l'image de ce qu'a été la société française, en fait, je pense, hein, dans son ensemble. C'est-à-dire, il a fait le dos rond, quoi. Et il faut savoir que... à l'époque, parce que bon, lui, il a toujours été antiraciste, et il s'est toujours revendiqué d'avoir aucun parti pris politique. C'est un peu étrange, mais c'est comme ça. Et lui, il avait une vision un peu particulière du monde, surréaliste, hein, d'ailleurs c'était un surréaliste, où il basait tout sur l'amitié, quoi, sur les relations humaines. Et donc, il voulait juste continuer à faire du théâtre et à vivre dans sa garçonnière avec son homme, le beau et jeune Jean Marais. Et malheureusement, évidemment, ça va pas vraiment se passer comme prévu. On va aller jusqu'à reprocher des choses à Cocteau, y compris. Alors, il y a cette fameuse histoire de Jean Marais qui va casser la gueule à un critique de collabo parce que il va révéler des choses sur Cocteau, et puis en particulier même jusqu'à comment dire. Le taxé, alors, il y a l'homosexualité, il y a le fait d'être un sémite et tout ça, et ça va amener, donc inverti et sémite, hein, parce que c'est comme ça qu'on s'exprime, hein, voilà, dans la bouche de ces gens-là, ça va amener Jean Marais à lui casser la gueule, à ce journaliste, à bien lui casser la gueule, hein, il le laisse dans un triste état, ça va inspirer d'ailleurs à Truffaut une scène du dernier métro, hein, et puis Jean Marais va avoir une trajectoire, lui, complètement différente de celle de Cocteau. C'est-à-dire que il va être FFI, il va s'emparer en 1944 à Paris d'un camion allemand rempli d'armes dans la cour de l'école de police rue Faubourg-Saint-Honoré, même si lui, il considère qu'il n'avait aucun mérite. Il dit dans ses mémoires qu'il n'avait aucun mérite parce que le camion était facile à prendre, il l'attendait que lui, c'est ce qu'il dit. Il va quand même être chauffeur ravitailleur pour la 2e DB, du général Leclerc, hein, voilà, donc quand même un type courageux, hein, voilà, et donc c'est marrant parce qu'ils vivaient en couple, alors je ne sais pas comment ça se passait, mais c'est deux façons de s'investir totalement différentes. Après, on sait que Jean Marais, c'est quelqu'un qui s'investissait corps et âme, voilà, il faisait aussi ses cascades lui-même, tout ça, enfin, et c'est d'ailleurs intéressant de le rappeler parce que ça va jouer là aussi dans ce dont je vais vous parler, c'est-à-dire cet Aigle à deux têtes, dans lequel Cocteau, il l'a écrit lui-même, il voulait confronter une reine d'esprit anarchiste et un anarchiste d'esprit royal. En fait, c'est simple, il va s'inspirer de deux faits réels, c'est-à-dire le souverain Louis II de Bavière, qui va être déclaré fou, qui va étrangler son médecin près d'un lac avant de trouver la mort, lui-même mystérieusement noyé, et on ne saura jamais vraiment ce que c'est. Alors lui, c'était le fameux aigle. Hein. Et puis, ensuite, il va s'inspirer de l'assassinat de la fameuse Sissi. Hein, au nom Élisabeth d'Autriche, qu'on surnomme Sissi suite à la série de films avec Romy Schneider, et qui, elle, va être assassinée par un anarchiste en 1898. Et il va imaginer cette reine veuve et vierge qui va recevoir dans son château cet homme qui est le sosie de son mari, mais qui est en fait un anarchiste, qui a comme mission de la tuer. Voilà. Et comme On connaît l'histoire, hein, l'issue fatale qui est arrivée à Sissi, et Cocteau dit la seule chose qui a été empruntée à l'histoire réelle, donc à l'histoire, à la grande histoire, je veux dire, c'est le coup de couteau final et le fait qu'une impératrice célèbre ait pu marcher longtemps avec un couteau planté dans l'omoplate. Alors on reconnaît là un peu aussi l'humour un peu particulier de Cocteau. Le film est tourné en partie pour les extérieurs, d'ailleurs au château de Pierrefonds dans l'Oise, comme il avait tourné aussi dans l'Oise pour le film La Belle et la Bête. Mais il est plus particulièrement tourné au château de Visil, qui a vraiment un côté effectivement résidence autrichienne. Et il va y avoir à un moment, je vous ai dit, hein, corps et âme Jean Marais. Et Jean Marais va manquer de perdre la vie, parce qu'à un moment, il fait une cascade où il a traversé un torrent glacé. Et il va manquer de s'étrangler avec une corde à nœuds qu'il a autour du cou. Et heureusement, il va pas mourir. Hein, heureusement pour le cinéma et puis pour Jean Cocteau, puis pour lui-même. Et puis après, il va y avoir, parce que dans la pièce, il y a une scène où il se jette d'un escalier. Mais sur scène, l'escalier fait 4 marches. Là, l'escalier, il est immense. Et il y a une anecdote célèbre, c'est-à-dire que Cocteau donne consigne, il dit à Jean Marais, lorsque tu seras tombé, surtout ne bouge pas avant que j'aie dit couper. Et puis Marais tombe, fait sa cascade. Cocteau est très très surpris. Et puis il dit couper. Jean Marais ne bouge pas. Alors du coup il se précipite, il lui demande s'il est blessé. Et puis il se relève. En fait, il avait juste pas entendu couper quoi. C'est et donc il s'est fait une. Il était perdu dans ses pensées. Alors le film, aujourd'hui, il est assez passionnant, en fait, parce que moi, je l'avais vu il y a longtemps, mais pas particulièrement plus. C'était plus pour l'autre film que je l'avais pris, ce double programme, et que je l'avais demandé à Rimini pour vous en parler. Et là, en fait, le film est bien mieux que dans mes souvenirs, parce que je trouve déjà qu'Edwige Feuillard et Jean Marais sont superbes. Et il y a un travail sur la lumière qui fait que on évite le statisme, on évite de se retrouver dans du théâtre filmé, et c'est assez étonnant. Et ça, c'est vraiment pour moi la grande qualité du film, mais qui sera encore plus prégnante dans Les Parents Terribles. Par contre, moi, je regrette, c'est que Cocteau, qui a très mal vécu visiblement la manière dont il a été perçu pendant la guerre, glisse des maladresses politiques pour un peu se dédouaner lui-même, en fait, d'avoir été à côté de Jean Marais. Effectivement, il paraît pour quelqu'un qui a été un peu lâche. Voilà. Ça n'enlève rien à la grandeur de l'artiste, mais ça lui a mis un petit coup de poignard dans son orgueil. Et c'est plutôt maladroit. Et par contre, autre pièce qui va connaître aussi un sort particulier, parce que justement il y a la guerre, c'est Les Parents Terribles. Alors Les Parents Terribles, encore une pièce de Cocteau en 3 actes, une fois de plus, elle est créée en 1938 et puis en 1939, à la suite de la 9e représentation, le conseil municipal de Paris, il interdit la représentation de la pièce parce qu'il l'accuse de mettre en scène l'évocation d'un inceste. La pièce va être reprise en octobre 1941, puis de nouveau interdite parce que la presse collabo, elle y voit un déprimant spectacle tableau d'une famille française où le proxénétisme, l'ordure morale, la prostitution la plus basse nous sont présentées comme l'image même de nos mœurs. Voilà. Bon, ils en rajoutent un peu, hein. Il faut dire les choses. Et puis après, elle va devenir un vrai classique qui va être joué même dans d'autres pays, qui va être repris. Et Cocteau, en 1948, il va adapter sa pièce au cinéma, mais là, il va faire un truc assez dingue. C'est-à-dire que la pièce, c'était quand même une pièce de boulevard. Et il va transformer cette pièce de boulevard presque en une sorte de film d'horreur tragique, quoi. On sent, là, qu'il va faire autre chose de cette pièce de théâtre, où il va reprendre les acteurs du théâtre. Il fait ça, hein, il aime bien faire ça, Cocteau, hein, reprendre des acteurs qui jouent la pièce. Donc Jean Marais, il va interpréter Michel, Josette D et Madeleine, Yvonne Debray, Yvonne Sophie, Gabriel Dorzé, Tante Léo, Marcel André-Georges, Jean Cocteau fait le narrateur, et il va il va reprendre cette pièce et qui va transformer, et où là, on va se retrouver dans un appartement où une mère très, très possessive, elle vit recluse avec son mari, elle a un jeune fils qui a 22 ans, et elle vit aussi avec sa sœur qui était autrefois éprise de son mari. Et le fils annonce à ses parents qu'il est amoureux d'une jeune fille qui était jusque-là entretenue par un vieux protecteur qu'elle a décidé de quitter. Et à partir de là, il va installer une atmosphère très étouffante, qui d'ailleurs peut rappeler un peu Tennessee Williams, et il va, par la mise en scène, transformer ce qui était, il faut le dire, un drame bourgeois, en une sorte, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, de film d'horreur gothique, de film d'horreur tragique plutôt, et tragique vraiment dans tous les sens du terme, puisqu'il y a des références, et en particulier à Oedipe, hein, puisque Michel va devenir le meurtrier involontaire de sa mère. Donc, et ça va donner un film assez éprouvant, en fait, à regarder, et assez étonnant et très loin de ces deux films-là, en fait, qui sont deux films sur le meurtre, hein, sont assez étonnants parce qu'ils contrastent fortement avec le reste de la, tout en ayant des points communs dans la mise en scène, mais quand même avec le reste de la filmographie de Jean Cocteau au cinéma, parce qu'il donne quand même une vision de l'humanité assez noire et bien loin de l'aspect féerique, par exemple, de La Belle et la Bête.
Ever since the beginning of time, man has pitted himself against the power of the sea to learn its secrets, to solve its mysteries. Many stories have been told of ships and the men who sail them, of sea beasts and the men who hunt them. But none has captured the imagination through the years so much as Herman Melville's immortal story of Captain Ahab, who lost his very soul in the bitterness of vengeance against the great white whale, Moby Dick.
You're to look for a white whale.
Je vais quitter un peu le cinéma français, je vais quitter Rimini Édition, et puis je vais laisser Thomas prendre la mer avec, comment dire, cet aventurier qui est John Huston, pour l'adaptation d'un ouvrage d'un certain Herman Melville, un livre qui s'appelle Moby Dick, et là, John Huston en fait un film qui sort chez BQHL, enfin qui ressort chez BQHL dans une superbe copie.
Alors, Moby Dick, tout le monde connaît l'histoire, hein, c'est l'histoire d'un... du capitaine Ahab qui veut se venger de la baleine blanche qui lui a bouffé sa jambe. Voilà, en gros. Mais bon, le roman d'Herman Melville, sur 550 pages, il y a quand même 300 pages de description à la baleine qui ne sont pas super passionnantes. On attend que l'intrigue revienne enfin dans les 150 dernières pages. Et finalement, John Huston réussit, lui, à intégrer ces passages-là dans son film de façon à ce que ça s'imbrique bien dans la narration. Donc... le capitaine Ahab, c'est Gregory Peck, hein, et on suit en fait Ishmael qui débarque dans un port de pêcheurs à la baleine, et qui cherche du travail et qui veut embarquer sur un baleinier. Voilà. Et il fait la connaissance d'un Indien, Queequeg, qui va devenir son ami. Et donc, ils embarquent tous les deux sur le Pequod, le bateau du capitaine Ahab. Mais le capitaine Ahab, lui, la pêche à la baleine, il s'en tape un peu. Ce qu'il veut, c'est retrouver la baleine blanche à tout prix pour la tuer. C'est un film, bien sûr, c'est un film qui parle d'une vengeance, mais c'est pas que ça. C'est aussi un film où le personnage, en fait, défie Dieu. La baleine blanche, c'est Dieu, hein, ni plus ni moins. Donc c'est le personnage qui défie Dieu, qui n'admet pas ses défaites et qui veut absolument se venger d'un Dieu qu'il estime cruel, sans cœur. Voilà, c'est l'histoire de Moby Dick. Alors John Huston, moi j'aime beaucoup le film, qui a été très mal reçu apparemment à sa sortie et qui est encore aujourd'hui essuie quelques critiques que je trouve pas fondées. Je trouve que le film est très beau, visuellement il est très beau. Il y a une très belle photo de Oswald Morris entre un côté un peu doré et sombre à la fois pour les scènes d'intérieur, et puis un côté très très blanc, très lumineux pour les scènes en mer là, quand il y a notamment la baleine blanche. Et c'est un film sur lequel John Huston a rencontré beaucoup de problèmes matériels pour le tourner, parce que tourner un film en pleine mer, une baleine blanche mécanique qui coule qui marche très bien en dehors de l'eau, mais quand on la met dans l'eau, elle coule, ou alors le câble qui la retient se brise et la baleine dérive. Et il a aussi rencontré beaucoup de problèmes, la mer agitée. Donc c'est un film sur lequel il a eu beaucoup de problèmes à réaliser. Mais je trouve que c'est un film... Moi, je trouve que John Huston se défend d'avoir quelque chose à dire dans ses films. Pourtant, il y a une constante, quelque part, dans ses films, c'est que ses personnages... ils ont une obsession, que ce soit le trésor de la Sierra Madre, l'homme qui voulut être roi, Moby Dick, ce sont des personnages qui sont obsédés par un objectif, un but, et qui vont jusqu'au bout de leur idée, jusqu'à la défaite, quoi. Jusqu'à ce que ça leur retombe sur le bec, comme dans le trésor de la Sierra Madre, comme l'homme qui voulut être roi, et donc dans Moby Dick. Moby Dick, hein, c'est un personnage qui est obsédé par son obsession de vengeance, qui ne voit plus du tout... sa mission, c'est-à-dire chasser la baleine, qui ne prend plus du tout garde à son équipage. Il entraîne son équipage avec lui dans la mort, et qui va jusqu'au bout de son truc, jusqu'au bout de son obsession, jusqu'à la mort. Comme dans, et je trouve que c'est une thématique, enfin tout du moins c'est un motif qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma de John Huston. En tout cas, moi je trouve que Moby Dick, c'est l'un des plus grands films de John Huston, et je trouve que c'est pas, les critiques négatives qu'on peut encore trouver encore aujourd'hui ne sont pas fondées. Il y a cette sortie en mer, à un moment quand le Pequod sort en mer, il y a ces gros plans sur les visages des femmes, comme si en fait les marins partaient à la mort, quoi. Elles sont habillées toutes en noir, et tous ces gros plans sur les visages des femmes, on a vraiment l'impression d'une procession funèbre où elles savent qu'elles ne reverront pas leurs marins. Effectivement, elles ne vont pas les revoir, là. Donc pour moi, c'est un grand film.
Je suis d'accord avec toi, Thomas. Je ne savais même pas qu'il existait des critiques négatives de ce film, qui pour moi est un chef-d'œuvre. Donc, Moby Dick de John Huston, un film de 56 qui est ressorti chez BQHL dans une très belle copie. Écoutez Culture Prohibée, spécial classique. Moi, je vais aller faire un petit tour du côté de l'Italie avec deux films. L'un qui est sorti chez Carlotta, l'autre qui est sorti chez Rimini. Je vais commencer par Il Ferroviere, un film de Pietro Germi. Alors, il a un titre français aussi, Le Disque Rouge, qui fait référence à une des péripéties du film, importante évidemment. Mais qu'un titre, effectivement, je préfère utiliser le titre italien, surtout qu'on aurait dû plutôt l'appeler Le Feu Rouge, hein, puisque c'est une histoire de feu rouge. Enfin, vous allez comprendre. En fait, on est à Noël. Sandrino, le petit garçon, il a court fièrement retrouver son père, Andrea. Andrea Marcocci, qui est un conducteur de locomotive. Mais sur le chemin du retour, Andrea, il voit de la lumière au café, il voit ses potes et il y reste. Et vas-y que je tente, parce que c'est un musicien, vas-y que je t'entonne la chansonnette là-dedans. Et voilà. Et par contre, c'est pas très cool parce que c'est le réveillon, quoi, quand même. Et toute sa famille l'attend. Et puis au final, ils vont continuer de l'attendre. Hein. Et le film va nous raconter comme ça une année de la vie de cette famille pendant 2 heures à travers le regard de ce petit garçon, là, Sandrino. On va voir le cercle familial se désagréger. Alors, ça se désagrège parce qu'il y a un point, en fait, il y a un point de non-retour, un moment qui explique un peu et qui marque, hein, en fait, en quelque sorte, en plus des errements éthyliques de Andrea Marcocci, du conducteur de locomotive. Et ce point de non-retour, il le franchit un jour où un homme se suicide en se jettant sous son train. Il ne le voit pas. Lui dit qu'il ne le voit pas. La scène est très impressionnante. Hein. Et dans la foulée, il ne voit pas un feu rouge non plus. Mais ça va, il n'y a pas d'accident, mais il évite de peu un accident. Donc il se voit déclassé dans son travail. Il se voit déclassé et il n'a plus le droit de conduire des locomotives. C'est un déclassement total parce qu'il va voir sa famille se désagréger puisque il a un fils qui est un petit voyou, c'est une petite frappe mais c'est pas un méchant qui a la vingtaine. Il y a sa fille qui va être obligée d'épouser un homme qui lui a fait un enfant mais elle va faire une fausse couche. Et résultat, en fait, on va découvrir qu'elle n'aime pas cet homme qui lui a fait un enfant et qu'elle a un autre amant. Mais c'est trop tard, elle est mariée. Et ça, c'est un scandale incroyable dans une famille puisqu'elle veut divorcer. Je rappelle que le divorce est interdit aussi à l'époque. Donc elle va finir par s'embrouiller avec son père qui va la frapper et puis elle va partir. Et puis il y a aussi ce petit garçon qui n'a pas des très bonnes notes à l'école. Puis cette femme qui tient la famille, hein, qui est extraordinaire. Et le film... ce que je vous dis là, c'est pas du tout un drame larmoyant. C'est une vraie. C'est dans la grande tradition du cinéma italien, et en particulier de ce cinéaste protéiforme, d'ailleurs, qui est Pietro Germi. On va en parler, je vais essayer de faire vite, mais bon. Qui livre là son film que lui préférait, parmi tous ses films. Et Pietro Germi, c'est pas n'importe qui, c'est une carrière énorme. En plus. Il a une particularité, Pietro Germi. Contrairement à la quasi-totalité des cinéastes de l'époque, il n'est pas au PCI. Il est au Parti Socialiste. Donc d'ailleurs, le film comporte des scènes qui vont faire qu'il y a une partie de la critique qui va vraiment détester ce film, en particulier parce que ce personnage, à un moment, il a l'occasion de reconduire une locomotive pendant une grève. Donc c'est un jaune. Et à l'époque, on rigolait pas avec les gens qui travaillaient pendant la grève. C'était pas... Aujourd'hui, tout ça s'est toléré, mais à l'époque, celui qui cassait la grève, il en prenait plein la tronche. Et rien que le fait de mettre ça en scène dans le film, alors qu'en plus, c'est une vision très moderne, en fait, de la société et de la division qu'il y a au sein du prolétariat, en vérité. Et donc, le film, de toute façon, est d'une richesse incroyable. Et en fait, le film, Germi, il en tient le rôle principal. C'est lui qui fait ce conducteur de train. Alors, c'est assez étonnant parce que la destinée du personnage rappelle un peu la sienne, enfin, en particulier pour la fin de vie. Puis, on sait que Germi avait un peu aussi quelqu'un d'un caractère très fort. Il est physiquement très impressionnant là, dans le film. Et c'est son scénariste, en fait, qui lui dit de tenir le rôle. Il dit, c'est un rôle pour toi. Et ce film est très autobiographique. Il tient une place à part dans sa carrière. Et le cinéaste, entre autres, de Au nom de la loi, dont on a parlé, un des premiers Poliziesco en mode rural, mais là, un des premiers, hein, puisqu'on est bien avant les années 70, qui après, pour dire à quel point c'est un cinéaste protéiforme, va augurer d'une certaine forme de comédie avec Divorce à l'italienne, mais qui va aussi, avec Meurtre à l'italienne, augurer aussi d'un certain type de polar, alors qui va donc en même temps faire du cinéma populaire, mais qui va aussi faire du cinéma très riche intellectuellement, et surtout qui signe un film très particulier. On est en 56, le néo-réalisme, c'est fini quelque part. Et c'est marrant, il y a la bande-annonce sur le Blu-ray là, et dans la bande-annonce, on dit c'est un film comme on en faisait autrefois. En gros, c'est un film comme les néo-réalistes savaient en faire. Et le film fait bien sûr penser, puisqu'on est à travers un gamin qui a une admiration pour un adulte, au voleur de bicyclette, sauf que là, la destinée du film est complètement différente. Hein. C'est le seul point commun, en fait, entre les deux films. Mais il y a le film, en fait, est incroyablement aussi élégant. Dès le début du film, on a des travelling avant. Enfin, en fait, la caméra est placée en tête d'un train. C'est des images assez impressionnantes. Il y a aussi des travelling latéraux superbes avec Silva Cosina, qui campe donc ce personnage de femme très moderne, puisqu'elle a, elle a des amants, elle choisit ses amants, elle fait le choix de l'indépendance, elle fait le choix de travailler et de vivre pour pouvoir vivre seule. On est en 56, hein. Donc c'est vraiment un personnage moderne, comme ce personnage de cheminot qui, en fin de compte, est bien plus complexe que la plupart des personnages d'ouvriers qu'on pourrait nous présenter. Voilà, qui en même temps il vit un déclassement social là dans le film, où on voit que il n'arrive pas à trouver l'aide du syndicat. C'est quelque chose que, parce qu'il a fait une faute. Donc le syndicat lui dit t'as fait une faute, voilà. Donc c'est vraiment très très particulier. Je voulais dire quand même que le personnage de jeune femme est interprété par Silva Cosina. Et là je trouve qu'elle est sublime dans le film. Hein. Elle est vraiment vraiment excellente. Et effectivement, on peut regretter qu'elle n'ait pas fait une plus grande carrière. Alors, le film est sublime, donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Certains y voient du Ozu. Moi, je ne connais pas assez Ozu pour... Certains y voient un film à la Ozu. Moi, j'y vois surtout un film à la Germy. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, il va renouveler la comédie. Il va toujours faire des films, en fait, très modernes parce qu'il refuse tout manichéisme. Et donc... Pietro Germi va ensuite connaître encore une plus grande carrière. Il va être couvert d'éloges, couvert de prix durant toute sa carrière. Et le fait que Il Ferroviere et que Carlotta avait déjà sorti en DVD, mais là que ça ressorte en Blu-ray, précipitez-vous sur ce film. J'ai peut-être été un peu brouillon, mais il y a tellement de choses à dire sur ce film, on n'a pas beaucoup de temps en fait. Donc voilà. Autre film immense sorti chez Rimini. Là, ce coup-ci, il est sorti chez Rimini et pas chez Carlotta. C'est Le Terroriste de Gianfranco de Bozio, qui est un film de 63, mais je l'avoue, moi, je l'ai découvert en 2024 lors de sa ressortie cinéma. Parce qu'en fait, personne ne l'avait vu, ce film. Alors, de Bozio, lui, le réalisateur, il a fait très peu de films. Il a fait partie du comité de libération nationale de la section de Vérone en Vénétie, sa ville natale. Bon, ça a de l'importance puisque dans le film, il y a un lien avec l'histoire. Alors, après la guerre, il va faire du théâtre et puis il fera quelques films pour la télé et deux pour le cinéma. Et celui-là, c'est son tout premier, là, Le Terroriste, ce film de 63. Et il va avec le scénariste Luigi Squardina, qui est un dramaturge hein, et surtout célèbre pour ses pièces de théâtre en Italie, mettre en scène une histoire qui se déroule à Venise en hiver 43, très influencée par Bertolt Brecht hein, dans le déroulé. Et à l'époque, la Venise est encore occupée par les Allemands, hein, puisque les Alliés sont bloqués à 200 km de Rome. Et ils sont, entre janvier et mai 44, pris dans les batailles de Monte Cassino. Et donc, du coup, il y a des petits groupes comme ça de partisans qui résistent localement. Enfin, selon du camp où on se place, on les voit comme des terroristes, d'où le titre, Le Terroriste, hein, ou comme résistants. Et dans ce petit groupe, il y a Rodolfo, Oscar et Danilo, et puis il y a celui qui les dirige, Renato Bracci. Et Renato Bracci, il est comment dire, interprété par l'intense, le très habité Gian Maria Volonté, dont on sait qu'il ne choisissait ses rôles qu'en fonction de l'orientation politique du film. Donc évidemment, là, on est servi. Hein. Il y a aussi un universitaire appelé l'ingénieur. Ces hommes forment un GAP qui est un groupe d'action patriotique. Et alors, je précise tout ça parce que franchement, le film met en scène énormément, parce qu'il y a des gens de la démocratie chrétienne, il y a des gens du Parti libéral, du Parti d'action, du Parti socialiste, du Parti communiste. Et il y a beaucoup de réunions, en fait, dans le film qui sont mises en scène. Et donc, c'est passionnant. Mais j'avoue qu'il faut connaître un peu l'histoire de la résistance en Italie et des partis politiques en Italie, parce que sinon, franchement, ça peut être ardu pour un néophyte. Alors, néanmoins, le montage hein, permet d'instaurer quand même une véritable dialectique avec le spectateur. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, il y a les actions hein, qui sont perpétrées par ces résistants que d'aucuns qualifient d'attentats. Choisis ton camp, camarade. Et ces actions, il y a leur préparation, leur exécution, dans la cité des Doges. Donc, il y a vraiment, on voit bien les différentes tendances politiques qui s'affrontent, même sur le fait de continuer à faire des attentats. Voilà, c'est très intéressant. Et le film montre une Venise qui est hantée. Il y a vraiment un aspect fantomatique dans ces architectures vides. Et tout cela, c'est renforcé par le gars de Maria Volonté, qui est en plus un personnage peu aimable, dont on affleure à peine la tendresse quand il voit secrètement sa femme Anouk aimée. Et il fend à peine l'armure. Hein, et par contre, c'est très intéressant parce que c'est là qu'on voit que c'est pas du tout un film manichéen. Parce que quand il est avec elle, il s'interroge, il a très peur de basculer en fait dans le fanatisme. C'est quelque chose, quand on parle de la résistance, on parle jamais de ça en fait. Et lui, il avoue cette peur d'être lui-même de basculer dans le fanatisme. Et en fait, ce que ça sous-tend, c'est quand la guerre va s'arrêter, est-ce que je m'arrêterai ? Parce qu'il sait qu'il est en train de perdre la Mussolini. Il sait que tout, voilà. Mais c'est très étonnant. Et puis le film va basculer lors d'un final qui est bouleversant, qui est magnifié par un superbe plan. Là, qui est vraiment un très grand plan de cinéma. Et à l'âpreté du propos, donc répond le sublime d'une mise en scène incroyablement maîtrisée. Et c'est vraiment du grand cinéma. C'est un film vraiment exceptionnel et c'est une très belle. Très belle découverte que Le Terroriste de Gianfranco De Bozzio, qui est donc disponible chez Rimini. Toujours chez Rimini, là on va parler d'un film un peu plus mineur, c'est Les Fuyards du Zarein, et qui est un bon vieux film spectaculaire à l'ancienne, réalisé par Ronald Nim. Ça n'étonnera pas mon cher Thomas, il sait que l'ami Ronald Nim, il est un spécialiste du cinéma spectaculaire. C'est lui qui a fait L'Aventure du Poséidon, qui reste un des meilleurs films catastrophes de l'histoire du cinéma, et qui était le scénariste, le producteur de David Lean. David Lean, qui n'était pas manchot avec une caméra quand même, hein, on va dire les choses tranquillement. Et là, le film nous présente une dictature du Moyen-Orient en 62, alors le Zarein, qui n'existe pas bien évidemment, dans laquelle un leader politique est libéré par des jeunes partisans qui décident de traverser le désert pour rejoindre un pays voisin. Évidemment, le voyage va être très très... très très périlleux pour un film d'aventure qui va à 100 à l'heure, où d'ailleurs Yul Brynner se fait voler la vedette hein, par Sal Mineo, par Jack Warden, gros casting hein, quand même. Hein, voilà. Et puis, chose assez rigolote, il y a un petit caméo qui va faire le plus grand bonheur des cinéphiles. Très bref dans le film d'un célèbre acteur britannique, je vous en dirai pas plus, qui vient faire un petit caméo là dans le film. Donc c'est une raison de plus pour voir ce film assez élégant, assez moderne en fait hein, d'ailleurs, même si le propos est pas toujours très clair, mais bon, parce que on a quand même face à nous un Moyen-Orient fantasmé, mais ça reste un film qui est une bonne vieille série B d'aventure comme on n'en voit plus en fait, comme on n'en fait plus. Donc on vous conseille vivement, c'est Fuyards du Zarein, Escape from Zarein, S'évader du Zarein, donc hein, de Ronald Nim. Écoutez Culture Prohibée.
Il y a un homme qui en ce moment ronge son frein, c'est notre ami Johan Chanoir, car nous sommes en train de parler d'un film quand même à vocation historique, qui est un film de Carlo Lizzani, là, qui sort chez Carlotta Film, donc qui s'appelle Les derniers jours de Mussolini, avec Rod Steiger dans le rôle de Mussolini, mais aussi avec Henri Fonda, avec Franco Nero, donc quelques acteurs quand même assez mythiques. Et ce film, Les derniers jours de Mussolini, Johan, je pense qu'il t'intéresse beaucoup, ce film de Carlo Lizzani, parce que c'est un film qui est d'une grande, grande véracité, à tel point qu'il est même tourné sur les lieux réels des événements, y compris d'ailleurs au moment de la mort de Mussolini. C'est vraiment la grille devant laquelle on l'a fusillé. Enfin, c'est un film de Carlo Lizzani qui, je le rappelle, a été partisan, était au PCI, a donc vécu aussi ça de l'intérieur, qui est d'une incroyable fidélité presque à l'histoire, ne niant rien, y compris les liens avec l'Église, et puis y compris la manière dont étaient perçus, même comment ils ont discuté entre eux, les partisans, de leur action, quoi.
Ah, tout à fait. Bon, c'est, ouais, il faut dire d'emblée que c'est un très bon film. Hein. C'est très bien fait, c'est très bien réalisé. Il y a les images, pour ceux qui le regarderont, de Milan, par exemple, hein, qui est figé dans un moment de stase. La ville est déserte, désertée. Il y a une sorte de grève générale, prélude à une insurrection. Et les plans filmés par Carlo Lizzani sont magnifiques, avec une musique stridente, dissonante, qui rajoute vraiment un peu l'angoisse. On est clairement dans une fin de règne très, très documentée. Et en plus, le réalisateur a glissé quelques flashbacks, avec quelques images d'archives réelles cette fois-ci. Donc à un moment donné, on ne sait plus si c'est Mussolini qu'on a en face de nous, si c'est Rod Steiger qui joue Mussolini, qui est à l'écran. Donc c'est un très bon film. On se demande d'ailleurs, à un moment donné, s'il ne va pas changer la fin de l'histoire, parce qu'on a l'impression que Mussolini va échapper un peu à son destin. Mais bon, finalement, il n'y échappe pas, évidemment. Parce que c'est un film qui se veut historique, qui est très documenté, tu l'as dit, c'est tourné à Milan, là où il commence un peu sa fuite désespérée vers la Suisse et puis après vers les États-Unis, parce qu'il y a aussi un film narratif avec le rôle des Américains un peu ambigu par rapport à Mussolini. Et puis le lac de Côme, il y a des images magnifiques du lac de Côme, hein, de la campagne, etc. Non, c'est vraiment un très très bon film et qui montre bien, tu l'as dit, hein, les espaces hein, de cette course désespérée vers un exil qui ne le trouvera jamais.
Et il n'hésite pas à nous présenter Mussolini, en fin de compte, comme quelqu'un d'assez minable, en fait, en particulier dans cette période de sa vie. Bon, il n'a plus aucun soutien, il s'aperçoit qu'il n'a plus aucun soutien, mais il est capable quand même de bassesse pour essayer de se dissimuler aux yeux du monde pour disparaître, quoi. Il perd un peu toute sa dignité dans ce film.
Alors tout à fait, bon, il faut dire qu'en 45, clairement l'agenda joue contre lui, la carte de la guerre est devenue contraire, et puis surtout, et le film le montre bien, parce que c'est quelque chose qui n'était pas forcément très connu du public français, c'est que il a été en 43, donc il a été arrêté, il a été mis en prison, il a été délivré par une expédition commando absolument incroyable, et puis après Hitler l'a installé dans un régime croupion, hein, la République de Salo, qui a été dans les derniers jours été filmé par Pasolini de manière absolument incroyable. Et donc c'est un moment en fait où il est déjà l'ombre de lui-même, c'est-à-dire que ce régime, la République de Salo, s'est quand même distingué par des atrocités, hein, il y a eu des en compagnie des Allemands mais aussi les fascistes, hein, ils ont massacré des villageois, des femmes, des enfants, des partisans, de manière horrible. Hein. D'ailleurs, une image dans le film, on exhume les corps des partisans et des villageois avec attachés les mains dans le dos par du fil barbelé. Donc, à un moment donné, en fait, c'est plus de Mussolini qui a été populaire et qui l'est encore. Hein. D'ailleurs, le film, à un moment donné, le dit bien parce qu'il y a deux partisans qui se demandent ce qu'il va rester de Mussolini après sa mort, parce que l'enjeu c'est la mort de Mussolini. Il y en a qui veulent le tuer tout de suite, il y en a qui veulent le tuer après, il y en a qui veulent pas le tuer pour l'exfiltrer vers les États-Unis. Mais son héritage, c'est les trains arrivés à l'heure. Et c'est assez tragique. Hein. Alors qu'en fait, il y a plein d'héritages de Mussolini. Hein. On le sait, nous, en termes de cinéma, c'est quand même lui qui fonde les studios chez Cinecittà. C'est lui, la Mostra de Venise, c'est sous le régime fasciste. Les quartiers, des quartiers un peu futuristes qui seront tellement filmés par Dario Argento. Donc en fait, il a un héritage, qu'on veuille ou non, hein, y compris dans la Rome d'aujourd'hui, qui est évident. Mais là, on le filme, comme tu dis, comme quelqu'un d'un peu, peut-être pas minable, mais quelqu'un qui est totalement dépassé, en fait, qui ne comprend plus. Et d'ailleurs, c'est assez, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est assez bien fait dans le film. C'est quelqu'un, en fait, qui revient constamment en arrière et qui cherche à comprendre le moment, en fait, où sa vie a dérapé. Et d'où toutes ces images sur des films de propagande, sur la déclaration de guerre en 1940 et surtout sur l'accompagnement de l'offensive d'Hitler en direction de l'Union soviétique.
Oui, il fait reposer beaucoup la faute sur les Allemands d'ailleurs, mais il y a aussi, je trouve qu'on comprend bien là ce que tu viens de dire, à travers énormément, on voit cet homme perdu à travers les échanges qu'il peut avoir avec le représentant de l'Église, en fait. Et là, on voit qu'il est effectivement dépassé, perdu, et qu'il veut revenir à un passé proche, mais qui est un passé révolu, déjà. On va rester dans le domaine du biopic. Pas aussi précis que le biopic de Lizzani qui a été tourné sur les lieux mêmes de l'action. Hein, voilà. Là, on va être chez Ken Russell pour un film qui sort chez BQHL, qui est un film de 71, qui s'appelle The Music Lovers. Et attention, ça envoie.
Ken Russell, toujours magistral, nous offre ici The Music Lovers, ou en français La Symphonie Pathétique, disponible chez BQHL. Alors, c'est son premier biopic musical sur différents compositeurs qu'il fera ensuite. Ici, le film retrace la vie du compositeur Piotr Ilitch Tchaïkovski, et notamment comment il a caché son homosexualité dans un mariage fantoche dont sa partenaire en souffrira au point d'en devenir folle. Ici, pour jouer le formidable Tchaïkovski, on a Richard Chamberlain, qui nous a quitté un peu plus tôt en début d'année, multi-récompensé en Golden Globes. Pour tenir le rôle de sa femme, ou devrais-je dire pour tenir son formidable rôle de Nina, on a Glenda Jackson, qui elle aussi a doublement été oscarisée et récompensée au BAFTA. Et c'est ces deux personnages qui vont en grande partie porter le film, qui est incroyable. Alors, c'est intéressant parce que généralement, quand Kent Russell parle de ses personnages et qu'il fait des biopics musicaux, il en parle toujours comme des superstars, comme littéralement des stars du rock. Ici, c'est pas le cas. Et ici, c'est pas le cas parce que justement, ce grand succès que va connaître Tchaïkovski, il va l'obtenir dans le film, vers la fin du film et un peu vers la fin de la vie de Tchaïkovski. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le scénario se repose en fait sur des échanges de lettres qu'il a eues avec, dans un premier temps, sa femme, puis dans un autre temps, un autre personnage. Et à partir de ces échanges-là, on va constituer le film. Le film qui va être empli de la musique de Tchaïkovski. Et le fait qu'il cache son homosexualité va être très important parce que c'est la raison pour laquelle il va décider d'épouser Nina. Parce qu'il pense qu'il ne peut pas devenir connu si en fait les gens se doutent qu'il est homosexuel. Donc il va faire en sorte que personne ne s'en doute en espérant avoir le succès. Ça ne va pas venir tout de suite, malheureusement pour lui. Dès le début, le film nous met dans l'ambiance. Hein, on se retrouve dans une Russie enneigée où les gens s'amusent, font la fête sur la musique de Tchaïkovski, qui prépare son futur concert. Juste après, on a un montage avec la musique qui est essentiel au film et qui est aussi incroyable. Toujours Ken Russell, des plans magnifiques. Il y a un magnifique plan où Tchaïkovski court un peu perdu dans un champ qui est légèrement en feu. Mais surtout, le plus important, ce qu'il va commencer à mettre en place ici et qu'on retrouvera dans tous ses biopics plus tard, ce sont des plans fantasmagoriques qui jouent toujours sur le fait qu'une musique va être liée à l'émotion de son personnage. On va voir ce qu'il ressent, la façon dont il le ressent, la façon aussi dont il s'imagine ou sa musique raconte en elle-même. Il y a un autre truc qui est très important, c'est la façon dont Tchaïkovski a grandi, parce que l'un de ses traumatismes d'enfance, c'est d'avoir vu sa mère tomber malade et jeter dans de l'eau bouillante pour essayer de la guérir, ce qui finira par la tuer, et ça va causer un traumatisme. Peut-être que c'est le traumatisme qui est à l'origine de son homosexualité, c'est pas expliqué, mais dans l'idée, il voit sa mère mourir et c'est un peu comme s'il assistait à la mort de la femme. Pour lui, c'est quelque chose qui va le marquer et qui va gagner en puissance jusqu'à la fin du film où il fera un peu dans une tentative de suicide exprès de mettre fin à ses jours où il finira exactement de la même manière que sa mère. Ce qui est intéressant dans son histoire et dans la façon dont Kurt Russell le raconte, c'est que ces personnages, ils ont un truc de très Zola au final dans l'histoire. En fait, on a des petits gens qui pensent échapper finalement à leur sort, à leur malheur, mais qui se retrouvent rattrapés par des traumatismes du passé, de l'alcool, de la pauvreté ou bien de la sexualité. Enfin, on parle de Zola, là on serait plus, vu qu'on est en Russie, peut-être sur du Dostoïevski. Quoi qu'il arrive, ici, Ken Russell annonce finalement tout ce qu'il fera par la suite. C'est un peu le palimpseste de ce qu'il va faire dans ses films, dans ses biopics musicaux. Et c'est très intéressant de le voir maintenant, parce que c'est un film qu'il maîtrise et que plus tard, dans ses autres films, il y aura plus une folie liée à tout ce qui est le rêve qui prendra place. C'est pour ça que The Music Lover, la symphonie pathétique de Ken Russell, est assez cool. Et une dernière chose, c'est que si ça s'appelle la symphonie pathétique, c'est parce que le dernier morceau qui va donner la célébrité à Tchaïkovski, c'est justement la symphonie numéro 6 qui s'appelle Pathétique. Et si vous voulez découvrir ce film, il est chez BQHL.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission animée avec Damien Demé, dit La Bête Noire de Compiègne, Johan Chanoir, dit Le Chat Errant, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.